les Israélites entrent dans le fond de la mer pour essayer d'échapper aux Égyptiens. Et enfin, il y a la troisième scène qui se situe de l'autre côté de la mer. Nous allons reprendre chacune de ces séquences. Que se passe-t-il devant la mer? Eh bien, nous avons trois choses. Un discours de Dieu, le récit des événements, et enfin, troisièmement, les réactions d'Israël et de Moïse. Le discours de Dieu à Moïse, versets 1 à 4. C'est un ordre à transmettre au peuple, verset 2. Et puis, c'est l'annonce de la réaction de Pharaon, versets 3 et 4. Et enfin, c'est la révélation du projet de Dieu, verset 4, « Je me glorifierai ». Nous l'avons vu ensuite, la narration des événements, au verset 5 à 10, « Tout se réalise comme Dieu l'a dit, point par point ». En effet, les Israélites obéissent à Dieu. Le verset 4 nous dit « C'est ce qu'ils firent ». Quant à Pharaon, il réagit exactement comme Dieu l'avait annoncé. Mais le plus important se situe donc maintenant dans la réaction du peuple d'Israël. Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand peur et crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « Manquait-il de tombeau en Égypte que tu nous aies menés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Première remarque, le peuple d'Israël est dominé par la peur. Le texte nous le dit. Les Israélites eurent grand peur. Et c'est à partir de la peur que va monter en eux la révolte contre Moïse et contre le dessein de Dieu. Manquait-il de tombeau en Égypte que tu nous aies menés mourir dans le désert? Ce qui est étonnant, c'est que le peuple d'Israël se retrouve avec la même aspiration que Pharaon lui-même. En effet, au verset 5, Pharaon et le peuple d'Égypte dit « Qu'avons-nous fait là de laisser Israël quitter notre service ?» Et les Israélites disent la même chose « Que nous as-tu fait ?» En nous faisant sortir d'Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens. La peur du peuple d'Israël l'entraîne à la révolte contre le dessein de Dieu et finalement révèle, dévoile que le peuple est comme sorti à contre-cœur. Il préfère l'esclavage, il est d'accord avec Pharaon. Cela signifie que, spirituellement, le peuple d'Israël est encore en Égypte. Spirituellement, il est encore esclave. Puisqu'ils sont du même avis que leur maître, Pharaon, il faut revenir en arrière, revenir à la situation d'avant. C'est un élément qui est particulièrement important. Le peuple d'Israël, finalement, est dans la perspective des Égyptiens oppresseurs contre la perspective du Dieu libérateur. Souvent encore, on le voit dans nos propres vies, la peur de l'avenir, la peur, comme le peuple d'Israël, dans une situation sans issue, nous amène à nous révolter contre le dessein, le projet d'amour de Dieu sur nous, et nous amène à vouloir faire retour en arrière. Ensuite, dans le récit, la poursuite nous est présentée en trois moments. Premier moment, eh bien, c'est la mobilisation de l'élite de l'armée. Versets 6 à 7. Pharaon fit atteler son char et amena son armée. Il prit 600 des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers. Deuxièmement, c'est la poursuite. Le roi d'Égypte se lança à la poursuite des Israélites. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent. Maintenant, c'est le troisième moment, la jonction, les rejoindre alors qu'ils campaient au bord de la mer. Et sur le plan littéraire, c'est assez extraordinaire de voir comment les puissances ennemies s'approchent d'Israël progressivement et Israël est bloqué devant la mer. Nous l'avons vu, les anciens maîtres et les anciens esclaves ont la même aptitude, le regret du passé. On peut remarquer qu'en hébreu, les deux mots « Égypte » et « Égyptien » n'en sont qu'un seul. Donc il n'y a qu'un seul mot pour dire « Égypte », la nation, le pays, et « Égyptien », les habitants. Et donc, selon le contexte, le traducteur de la Bible peut choisir tantôt le nom du pays ou tantôt le nom du peuple. Regardez ce que donnent les versets 11 et 12 si nous ne traduisons qu'en utilisant que le mot « Égypte ». Manquait-il de tombeaux en Égypte, que tu nous aies menés mourir dans le désert, que tu nous aies fait en nous faisant sortir d'Égypte. Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous sortir d'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir dans le désert. Vous avez compris, le mot Égypte revient 5 fois. Il traduit plus que la nostalgie, une véritable obsession. Entre la mer et l'armée de Pharaon, le regard d'Israël est tourné vers le passé. L'homme libéré aspire à retourner dans son esclavage. Et puis, bien sûr, il y a ce « nous ». Dieu parle de sa gloire. Dieu a dit « Je me glorifierai », mais le peuple est tourné vers lui-même. Nous avons vu que la peur qui entraîne la révolte, qui entraîne la nostalgie de l'avant, c'est en même temps cette attitude de l'homme qui est tournée, bloquée vers lui-même. Il ne voit plus Dieu, il ne voit plus que sa situation, il ne voit plus que son intérêt, c'est nous. Nous, nous, nous. Résumons. Le peuple, dans cette situation critique, est tourné vers le passé, l'esclavage, et est tourné, fermé sur lui-même, nous. Il n'est donc pas du tout véritablement sorti d'Égypte. Arrêtons-nous quelques instants sur cette attitude du peuple d'Israël. Combien de fois nous retrouvons, nous aussi, dans nos propres vies, dans ces moments difficiles où nous avons l'impression d'être coincés, sans issue, d'un côté l'armée de Pharaon, de l'autre côté la mer Rouge, tout est bloqué, fermé. Et il y a en nous la peur. Peur de l'avenir, peur d'être abandonné, livré à nous-mêmes, peur d'être en situation d'échec. Et cette peur qui monte en nous va entraîner la révolte. La révolte contre le dessein de Dieu et même une façon pervertie de voir ce dessein de Dieu. Dieu m'entraîne vers la vie et je l'accuse de vouloir ma mort. Manquait-il de tombeau en Égypte que tu nous aies mené mourir dans le désert? Donc dans ces cas-là, le dessein de Dieu ne m'apparaît plus dans sa véritable lumière, l'homme pécheur le voit d'une manière tordue. Il n'y a plus que la souffrance, la croix, un Dieu qui me voudrait du mal. Et puis, troisième attitude, la nostalgie de l'avant. L'avant qui était un lieu de souffrance et de mort, un camp de concentration pour le peuple hébreu, est vu d'une manière complètement idéalisée, et cet avant devient maintenant objet de nostalgie. Et je veux donc retourner en arrière, ne plus continuer dans ces exigences de la vie chrétienne. Avant, c'était plus reposant, plus sécurisant. Et enfin, quatrième attitude de l'homme pécheur, coincé dans cette voie sans issue, le repliement sur lui-même. Là où Dieu dit « Je me glorifierai la gloire de Dieu », l'homme ne voit plus la présence de Dieu ni de son dessein. Nous, 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 moi, moi, moi. Il n'y a plus que cet égocentrisme qui fait que je ne vois plus rien d'autre que cela. Le cardinal Martini imagine la scène dans un excellent petit livre qui s'intitule « La vie de Moïse ». D'une manière qu'on appelle midrashique, il se représente le débat à l'intérieur du peuple d'Israël autour de Moïse.
Au centre du camp, une grande tente. Nous nous en approchons et cherchons à voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a un homme pâle, au souffle court, silencieux. L'entour des hommes à la barbe fournie, les poings fermés. Nous devinons que l'homme, au centre, est Moïse, entouré des anciens d'Israël. Que fait Moïse? Il se tient là, muet, semblant médusé. Et que font les anciens? Ils parlent, crient, se déchaînent à la manière des orientaux qui s'emportent. Écoutons ce qu'ils disent. Le premier. Vois donc, Moïse, où tu nous as conduits. Nous t'avons fait confiance. Nous avons cru que Dieu t'avait parlé. En fait, nous sommes pris comme des rats, prêts à mourir. Alors, ou bien nous nous jetons à l'eau pour mourir noyés, ou bien nous laissons le Pharaon nous anéantir. Voilà où nous en sommes. Pour Israël, c'est la fin. Un autre se lève. Nous nous sommes imaginés que tu avais changé, Moïse. Nous t'avons connu imprudent, entêté. Mais nous croyons que le désert t'avait appris quelque chose. Mais non, tu es resté exactement le même, semblable à ce que tu étais. Et une fois encore, tu nous as précipités dans le malheur. Un troisième. Écoutez-moi, frère. Nous avons des armes. Certes, les Égyptiens sont très puissants, mais si nous nous battons, nous terminerons notre histoire au moins de façon glorieuse. Mourons comme des héros, et louons le Seigneur en tombant les armes à la main. Un quatrième, plus vénérable que les autres, dit « Frère, prêtez-moi votre attention. De la vie, j'ai une longue expérience. Je connais bien Moïse et je n'ai jamais eu grande confiance en lui, pas même lorsqu'il est revenu. J'ai compris que c'est un illuminé. Mais écoutez-moi, le Pharaon, je sais qu'il n'est pas méchant homme. De plus, il a besoin de nous. Il n'a donc aucune intention d'exterminer notre peuple. Au contraire, il a tout intérêt à nous rétablir dans notre situation. Soyons humbles, ne tentons pas Dieu. Notre position est insoutenable. Envoyons donc une ambassade au Pharaon et que Moïse se rende absolument invisible. Que quelques hommes sages aillent et disent « Nous avons mal agi. Reprends-nous. Nous sommes prêts à revenir en Égypte. Nous nous sommes fiés à ce misérable qui nous a trompés. » Puis, le ton du vieillard se fait plus persuasif, plus intense. « Frère, écoutez-moi. Le Pharaon signifie sécurité, paix et pain pour nos enfants. Ne rejetez pas ma proposition. Ne soyez pas insensés. » Alors un autre se lève et dit « Mais si, en réalité, Dieu avait parlé à Moïse, que ferons-nous? Irons-nous contre Dieu ?» Un autre aussitôt le contredit. « Mais non, c'est impossible. Dieu ne peut abandonner son peuple. » Désespéré est notre situation. Comment Dieu pourrait-il vouloir notre désespoir? Ainsi parlait-on sous la tente. D'un côté, il y a Moïse. De l'autre, il y a le Pharaon avec ses menaces, mais aussi avec ses promesses et ce qu'il représente de soutien juste et raisonnable pour les situations complexes de l'existence. Au centre, les anciens, partagés entre Moïse et le Pharaon. Il semble qu'à cette heure, les actions du Pharaon soient à la hausse, alors qu'une poignée d'hommes ose miser sur Moïse.
Le cardinal Martini continue sa réflexion. Réfléchissant à cette scène, je me pose une fois encore la question. Qui est le Pharaon? Qui est Moïse? Qui est le Pharaon? Il symbolise une vie arrangeante et arrangée. Une vie qui sait tenir compte des nécessaires compromis pour garantir une certaine tranquillité. Une vie où l'on sauve la chèvre et le chou. Une vie où je puis assurer extérieurement ma profession de foi, ma confession chrétienne, tout en m'arrangeant pour que cela ne me compromette pas trop. Aussi, je me donne une certaine apparence. Je m'assure certains points d'ancrage qui, en toutes circonstances, me sauveront. En résumé, le Pharaon symbolise ici un accommodement pour être en paix avec le monde. Il s'agit d'un équilibre obtenu par un savant dosage, une certaine assurance, à quoi je ne renoncerai pas, et la suite du Christ. Je me tiens au juste milieu. Au fond, le Pharaon est un homme de raison. Il acceptera bien ce compromis et nous permettra d'aller de temps en temps au désert pour y offrir des sacrifices. Ce pharaon a en vérité le visage de la tentation endurée par tout homme en ce monde. Chacun pourrait réfléchir ici sur ce que représente pour lui ce pharaon de compromis raisonnable et de raisonnable tranquillité. Et Moïse, qui est-il? Moïse, c'est la totale insécurité à la suite du Christ. Absence de sécurité sur quoi le Seigneur semble insister, comme s'il poursuivait et provoquait quiconque veut marcher à sa suite. Et maintenant, après la réaction des Israélites, examinons la réaction de Moïse, au verset 13 et 14. Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, tenez ferme et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous sauver aujourd'hui. car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille. » Moïse, par son intervention, va débloquer la situation. Et il commence d'ailleurs par aller au fond du problème. Nous l'avons vu, ce problème, c'est la peur. Les Israélites eurent grand peur. Et c'est la raison pour laquelle Moïse commence par dire « Ne craignez pas, n'ayez pas peur. » Et puis, il réintroduit le Seigneur dans cette situation. Pour le peuple d'Israël, c'était l'Égypte et nous. Quant à Moïse, il réintroduit le Seigneur qui était exclu de cette situation par le peuple. Tenez ferme et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous sauver aujourd'hui. Ainsi donc, il tourne le regard d'Israël vers le ciel, vers le Seigneur. Moïse dit trois choses. 1. Dieu va donner le salut aujourd'hui. Ce salut est en opposition avec la mort, les tombeaux dont parlait le peuple d'Israël. Et le « aujourd'hui » est en opposition avec le retour vers le passé, vers l'avant, envisagé par le peuple d'Israël. Dieu va donner le salut aujourd'hui, la vie maintenant. Deuxièmement, Moïse leur annonce que l'ennemi qui les menace, l'Égypte, la mort, l'esclavage, cet ennemi qui les menace va disparaître définitivement. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et cette parole est d'autant plus importante que nous savons, en Exode 12, 40, que le séjour des Israélites en Égypte avait duré 430 ans. Donc, ces 430 années, Moïse affirme que cet ennemi va disparaître définitivement. Troisième chose que Moïse affirme, cette œuvre de salut est pour vous. Le Seigneur combattra pour vous. Vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Et ce « pour vous » est donc la réponse de Dieu à la crainte du peuple qui était enfermé dans son « nous ». Dans nos propres vies, il en est de même. J'ai à accueillir l'intervention de Moïse. J'ai à croire que le Seigneur peut débloquer toute situation, qu'il n'y a pas de situation sans issue pour le Seigneur. À Dieu, tout est possible. Mais j'ai aussi à laisser le Seigneur aller jusqu'au fond de mes peurs. J'ai à entendre cette parole que la Bible répète souvent, « N'ayez pas peur, ne crains pas. » Et j'ai à laisser cette parole réaliser, accomplir cela en moi. J'ai aussi à réintroduire la présence vivante et agissante du Seigneur en moi. Combien de fois devant une situation, un échec professionnel, une maladie, une difficulté de relation, je ne vois plus que le problème et la difficulté, et le Seigneur en est comme absent. Et donc, la solution est celle de Moïse, réintroduire la présence du Seigneur dans cette situation. Croire en son dessein, croire en son salut. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Croire en ce salut que le Christ apporte et qui est libération définitive de tout ce qui peut m'oppresser. Et croire que cette œuvre de salut, bien sûr, elle est pour tous les hommes, mais qu'elle est pour moi personnellement. Cette œuvre de salut, dit Moïse, elle est pour vous. Et donc, croire en l'amour de Dieu en général, ce n'est pas très engageant. Mais croire en l'amour de Dieu pour moi personnellement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus exigeant. Nous voyons comment ces versets 13 et 14 sont d'une grande actualité dans nos propres vies, particulièrement dans les moments où nous nous pensons bloqués dans une situation sans issue. Deuxième grande période par rapport à cette articulation autour de la mer, avant, au milieu, après. Maintenant, au milieu de la mer. Là encore, c'est une scène en trois parties. Un discours de Dieu, les versets 15 à 18. 2. La narration des événements, les versets 19 à 25. 3. La réaction des Égyptiens. Examinons le discours de Dieu à Moïse, versets 15 à 18. Là encore, trois parties. Un ordre à transmettre au peuple, verset 15, dit aux Israélites de repartir. Un ordre qui concerne Moïse, verset 16. « Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. » Et 3. La révélation de ce que Dieu, lui, va faire. « Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, etc. » Nous voyons, c'est très intéressant, que c'est le Seigneur qui répartit les rôles avant le moment décisif. Dans ce moment sans issue, humainement, tout est bloqué, fermé, Dieu a l'initiative. Et c'est lui qui est comme le metteur en scène. Israël, voilà ce que tu vas faire, tu repars. Moïse, voilà ce que tu vas faire, et moi, vous allez voir ce que je vais faire. Et ainsi, par cette initiative de Dieu, le Seigneur va débloquer la situation qui était apparemment sans issue. Et le plan de Dieu est inattendu, imprévisible. En effet, ce n'est pas la soumission, laisse-nous servir les Égyptiens, ce n'est pas non plus le combat contre les Égyptiens, c'est autre chose que Dieu prépare. Il s'agit d'aller vers, ou plutôt dans, à travers la mer. Souvent dans nos vies, nous pensons avec notre raison, nous examinons la situation et humainement, nous ne voyons pas tellement de solutions. Et nous oublions que le Seigneur, lui, peut faire surgir d'une manière inattendue quelque chose qui peut nous libérer, comme le peuple d'Israël, qui peut nous sortir d'une impasse. Combien de fois nous avons expérimenté ce plan inattendu, imprévisible de Dieu. Et puis voilà maintenant la narration des événements, les versets 19 à 25. Il y a d'abord une première séparation, la séparation des deux camps par la colonne de nuée. Au verset 19 et 20. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. La nuée était ténébreuse, et la nuit s'écoula sans que l'un puisse s'approcher de l'autre de toute la nuit. Donc on voit que ici, il y a une séparation entre les deux camps qui est soulignée avec insistance. Par l'ange de Dieu, il y a une impossibilité que l'un puisse s'approcher de l'autre. Maintenant, une séparation infranchissable entre Égyptiens et Israël. Le danger qui est exprimé au verset 10, c'était « comme Pharaon approchait ». Tellement proche d'ailleurs qu'il pouvait être vu des Israélites. Les Israélites levèrent les yeux, voici que les Égyptiens les poursuivaient. Et maintenant, la séparation met un terme à ce danger. Verset 20, « sans que l'un des camps puisse s'approcher de l'autre de toute la nuit. » L'ange de Dieu, signe de la présence de Dieu, et la colonne de nuée, signe de la présence de Dieu, font le même mouvement. Ce sont d'ailleurs deux manifestations d'une présence unique, celle de Dieu. L'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même qui regarde de la colonne de feu et de nuée vers le camp. Et puis maintenant, il y a une autre séparation. La séparation des eaux et l'entrée dans la mer. Les versets 21 à 23. Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec, et toutes les eaux se fendirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. Le mot « mer » revient ici 5 fois dans ce petit passage. Et le « à pied sec » eh bien désigne la terre sèche. Ainsi, les Israélites ont marché au milieu des eaux sur la terre sèche. Et là encore, cela nous rappelle un passage de la parole de Dieu. La séparation des eaux qui nous renvoie à la création du monde, au chapitre 1 de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Et aussi, Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaissent la terre sèche. Ainsi, dans la Genèse, c'est la condition pour l'apparition de la vie. Il faut que soient séparées l'eau et la terre sèche. Comme nous avons vu que il y avait la parole de Dieu qui s'accomplissait en Exode 14 comme dans le récit de la création, nous voyons maintenant que comme dans le récit de la création, Dieu sépare pour créer. Dieu fait traverser à son peuple la mer, la nuit, sur un sol vierge, sur un sol sur lequel aucun homme n'a jamais marché, pour lui ouvrir un avenir tout neuf. Dieu trace donc un chemin nouveau, et la mer, qui est un signe de mort et de chaos, laisse la place à ce peuple qui va vers la vie. La mer, c'est la mort et le chaos devant. L'Égypte, c'est la mort et l'esclavage derrière. Et au milieu, le Seigneur trace un chemin inattendu. Un chemin que Dieu seul peut ouvrir. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une collaboration entre Dieu et Moïse. Verset 21, Moïse étendit la main sur la mer, ça c'est l'action de l'homme. Et le Seigneur refoula la mer, c'est l'action de Dieu. Mais nous pouvons remarquer que dans le texte, Dieu, le Seigneur, l'ange de Dieu, ou la colonne, c'est-à-dire tous ces signes de la présence de Dieu, c'est toujours Dieu qui est le sujet principal de tous les verbes d'action. Et c'est surtout lui qui agit. Regardons les versets 19 à 25. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux. La colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. La nuit était ténébreuse et la nuit s'écoula. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit, etc. Donc c'est vraiment et c'est surtout le Seigneur qui est le sujet principal de toutes ces actions. Enfin, la réaction des Égyptiens. La deuxième partie du verset 25 nous montre que les Égyptiens reconnaissent que c'est le Seigneur qui combat pour Israël. Et ainsi, ils confirment la parole que Dieu avait dit au peuple d'Israël par Moïse. « Le Seigneur combattra pour vous. » C'est confirmé par le peuple d'Israël, c'est le Seigneur qui combat pour eux. Ainsi, la traversée de la mer fait connaître à Israël qu'il a été sauvé non pas par lui-même, non pas par un concours heureux de circonstances, mais par le Seigneur qui combat pour son peuple. Troisième grande séquence, de l'autre côté de la mer, ce sont les versets 25 à 31. Là encore, trois parties. L'ordre du Seigneur à Moïse, verset 26. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » La réalisation de l'ordre, versets 27 et 28. Moïse étendit la main sur la mer rentra dans son lit, les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Dieu dit, verset 26, et cela est, verset 27. Ainsi, comme dans le récit des plaies d'Égypte, Dieu a la toute-puissance sur la création. Il est le maître absolu de l'univers et de ses éléments. Dieu modifie l'ordre de la nature, temporairement, puisque la mer retrouvera sa place, mais il modifie l'ordre de la nature pour manifester son amour à son peuple. C'est un thème biblique que nous retrouvons souvent. L'ordre naturel du cosmos est soumis à l'histoire sainte. Et ce miracle, cette modification dans l'ordre naturel est pour Israël un signe de salut, pour l'Égypte une plaie, synonyme de noyade. Et puis le Seigneur rétablit l'ordre du cosmos. La mer rentra dans son lit. Il faut bien sûr rappeler que, en tout ce qui concerne les signes ou les miracles, Dieu est tout-puissant, il a autorité sur l'univers, il est libre, souverain, il peut changer les lois de la nature. Mais surtout, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est père, pour sauver ses enfants, il est prêt à faire des miracles. C'est ainsi d'ailleurs que l'a perçu toute la tradition du peuple d'Israël. Le Seigneur, Dieu créateur, est en même temps Dieu libérateur. Et les rabbins vont même constater que Dieu agit, domine sur ce qu'on appelle dans l'Antiquité les quatre éléments primordiaux. Il y a le feu qui est présent dans cette geste, dans ce miracle de l'amour. C'est le feu de la colonne. Il y a l'eau qui est présente, l'eau de la mer. Le vent est présent, le vent d'est qui assèche. Et enfin, la terre elle-même. Ainsi, à travers ces quatre éléments, c'est tout le cosmos qui est récapitulé et qui est soumis à l'action libératrice de Dieu. Alors, la conclusion du récit est à comparer avec la parole de Moïse. Au verset 13 et 14, Moïse dit « Vous verrez, le mot « voir », vous verrez l'action de Dieu. » Et au verset 27 et 31, la conclusion du récit, le passage de la mer Rouge, « Israël vit les Égyptiens morts, il vit la prouesse. » On voit que le mot « voir », « vous verrez l'action de Dieu » est accompli à la fin du récit. Moïse avait parlé d'une œuvre de salut pour vous sauver. Et la fin du récit nous dit que le Seigneur sauva Israël. Moïse avait prophétisé la suppression radicale et définitive des ennemis. Vous ne les reverrez plus jamais. Et à la fin du récit, on nous dit il n'en resta pas un seul. Enfin, Moïse, au verset 13 et 14, avait annoncé cette œuvre de salut pour aujourd'hui. Et cet aujourd'hui, nous le retrouvons à la fin du récit, puisqu'il nous est dit au verset 30, ce jour-là. Ainsi, dans ces quatre éléments, la parole de Moïse est accomplie point par point. La véritable libération de l'Égypte est réalisée de l'autre côté de la mer. Nous l'avons vu, il ne s'agit pas de sortir physiquement de l'Égypte, mais de se libérer de la peur de l'Égypte et de sa puissance, de se libérer de la tentation du retour en arrière. C'est à ce moment-là seulement que le peuple est libre. La conclusion, au verset 31, « Le peuple craignit le Seigneur », cela nous montre que le peuple est passé de la crainte de l'Égypte à la véritable crainte de Dieu. La conclusion nous dit il crut dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Le peuple est passé de la méfiance dans le dessein de Dieu, exprimé au verset 11 et 12. « Manquait-il de tombeau en Égypte que tu nous as menés dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Il y avait méfiance dans le dessein de Dieu, et maintenant il crut dans le Seigneur et en Moïse son serviteur, c'est le passage de la méfiance à la confiance. Ainsi, nous retrouvons le sens de la Pâque spirituelle d'Israël, la Pâque spirituelle pour chacun d'entre nous, qui est le passage de la peur à la foi, de la révolte à la confiance. Pour la lecture christologique de ce passage de la mer Rouge, le texte fondamental nous est donné dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2. car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frère. Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel, et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Ainsi, nous dit saint Paul, tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Pour saint Paul et toute la tradition chrétienne, pour les pères de l'Église, ce passage de la mer Rouge est le signe du baptême, notre propre libération des puissances du mal qui nous fait entrer dans la vie nouvelle. Et comme le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse, nous sommes, nous, baptisés en Christ. Nous allons maintenant méditer ce passage d'Exode 14 et en faire une lecture baptismale avec les pères de l'Église. Nous commencerons par un texte capital de saint Jean Chrysostome qui nous montre le lien entre Ancien et Nouveau Testament et comment un passage de l'Ancien Testament est figure de ce qui va être accompli, réalisé en plénitude dans le Nouveau Testament.
Comment le passé peut-il être le type du présent? Si tu apprends d'abord ce qu'est le type et ce qu'est la vérité, alors je répondrai à ta question. Qu'est-ce que l'ombre et qu'est-ce que la vérité? Eh bien, pensons aux images que dessinent les peintres. Tu as souvent vu l'image de l'empereur teintée de couleur bleue. Ensuite, le peintre trace les lignes blanches et il dessine l'empereur, son trône, des chevaux, des officiers et les ennemis vaincus. Quand tu vois ce tracé, tu ne sais pas encore tout, mais tu n'ignores pas tout non plus. Tu reconnais vaguement un homme, un cheval. Mais comment se présente l'empereur? Ou à quoi ressemble l'ennemi? Tu ne le vois pas clairement jusqu'à ce que les couleurs de la vérité te renseignent. Or, de même que tu ne peux tout distinguer sur cette image avant que ne viennent les couleurs, mais qu'un tracé te donne une connaissance suffisante, comprends donc qu'il en est ainsi de l'Ancien et du Nouveau Testament, et n'exige pas de trouver dans le type tous les détails de la vérité. Alors, je pourrais t'enseigner l'harmonie des deux testaments, et comment le passage de la mer Rouge a une parenté avec notre baptême. Jadis, de l'eau, aujourd'hui de l'eau, ici une piscine, là-bas la mer. Aujourd'hui comme jadis, nous entrons tous dans l'eau. Jusqu'ici, c'est ressemblant. Veux-tu maintenant que nous ajoutions les vraies couleurs? Dans l'Ancien Testament, la mer délivrait de l'Égypte. Dans le Nouveau, elle délivre de l'idolâtrie. Là-bas, c'était le Pharaon qui était jeté à la mer. Ici, c'est le diable. Là-bas, on étouffait les Égyptiens. Ici, on ensevelit le vieil homme. Et discerne bien quel est le rapport de la figure à la vérité et de la vérité à la figure. Car il ne convient pas que le type soit entièrement différent de la vérité, ou alors il n'en serait pas le type. Et il ne faut pas non plus que le type ressemble exactement à la vérité. car alors il serait la vérité même. Mais il doit garder son mode, n'avoir pas tout ce que possède la vérité, mais en avoir une partie et lui en réserver une autre. Donc, ne me demande pas de trouver tout dans l'Ancien Testament. Mais si tu en saisis quelques énigmes, même chétives et obscures, estime-toi heureux. Dans ces lignes de saint Paul, où est donc le rapport du type avec la vérité? En ceci, que tous traversent l'eau, tous sont délivrés de la servitude, mais pas de la même. Nos pères sont délivrés de l'esclavage d'Égypte et nous de celui du diable. Eux de la servitude sous des étrangers, nous de la servitude sous le péché. Tous sont rendus à la liberté, mais pas à la même, car la nôtre est beaucoup plus belle. Et si tout est plus beau et plus excellent chez nous, n'en sois pas étonné, car il appartient par-dessus tout à la vérité qu'elle dépasse de loin le type, mais qu'elle ne lui soit pas contraire ou incompatible. Que veut dire « tous, en suivant Moïse, furent baptisés » Cette parole semble obscure, mais je m'efforcerai de l'éclairer. La mer s'étendait devant leurs yeux, et l'on donnait l'ordre de la traverser par une voie étrange et inouïe. Personne n'avait jamais traversé ainsi. Ils hésitaient, se dérobaient, faisaient difficulté. Moïse passa le premier, et tous suivirent. C'est ce que veut dire « tous, en suivant Moïse, furent baptisés ». Ils crurent en lui, et, sous sa conduite, parce qu'ils avaient confiance en lui, ils osèrent entrer dans l'eau. C'est cela même qui arrive avec le Christ. Il nous a ouvert la voie, il est monté aux cieux le premier. Donc, comme les Hébreux se fiant à Moïse osèrent entreprendre leur voyage, nous aussi, nous fiant au Christ, nous entreprenons avec confiance notre pèlerinage.
Un deuxième texte de saint Cyrille de Jérusalem. C'est aussi une catéchèse baptismale adressée à des chrétiens qui vont ou qui viennent de se faire baptiser. Nous trouvons ce texte dans le livre « Lire la Bible avec les pères » de sœur Isabelle de la Source, page 62. Nous allons vous instruire parfaitement afin que vous compreniez le sens de ce qui s'est opéré en vous lors de cette veillée baptismale. Vous êtes d'abord entré dans le vestibule du baptistère. Debout, tourné vers l'Occident, vous avez écouté. Puis vous avez reçu l'ordre d'étendre la main, et comme s'il était présent, vous avez renoncé à Satan. Or, il faut que vous le sachiez, la figure de ce rite est contenue dans l'histoire ancienne. En effet, quand Pharaon, ce tyran si dur et si cruel, écrasait le peuple libre et noble des Hébreux, Dieu envoya Moïse pour les faire sortir de cette pénible servitude des Égyptiens. Du sang d'un agneau, ils firent une onction sur les montants des portes, afin que l'exterminateur s'éloignât des maisons qui portaient la marque du sang. Le peuple des Hébreux fut ainsi miraculeusement délivré. Et quand Pharaon se mit à les poursuivre juste après leur libération, quand il vit la mer se fendre miraculeusement pour eux, il s'y engagea lui aussi, mettant ses pas dans leurs pas. Il fut alors immédiatement submergé, englouti dans la mer Rouge. Passons maintenant des événements anciens aux événements nouveaux, de la figure à la réalité. Là, Moïse est envoyé par Dieu en Égypte. Ici, le Christ est envoyé du sein de son Père pour le monde. Là, il fallait sortir d'Égypte un peuple opprimé. Ici, le Christ doit délivrer ceux qui, dans le monde, sont accablés par le péché. Là, le sang d'un agneau détourna l'exterminateur. Ici, le sang de l'agneau sans tache, Jésus-Christ, a mis en fuite les démons. Le tyran jadis a poursuivi jusqu'à la mer le peuple ancien. Toi, c'est le démon effronté, impudent, ce principe du mal qui te talonnait jusqu'aux sources du salut. Le premier fut englouti dans la mer, le second disparaît dans les eaux du salut. Quelle parole chacun de vous debout a-t-il prononcé ? Je renonce à toi, Satan. À toi, méchant et cruel tyran. Je ne crains plus ta force, car le Christ l'a anéanti en devenant participant de ma chair et de mon sang, afin d'abolir la mort par la mort, grâce à ses souffrances, pour que je ne sois plus jamais dans une situation d'esclave. Enfin, pour terminer notre étude, nous prendrons une autre catéchèse de Saint Grégoire de Nice, intitulée « Au sortir de l'eau baptismale, laissons derrière nous tous les bataillons des vices ».
Les événements dont l'Exode nous rapporte le déroulement passé, l'interprétation spirituelle nous les montre en train de s'accomplir encore. En entendant cette histoire, en effet, comment ne pas songer au mystère de l'eau dans laquelle on descend avec toute l'armée des ennemis et d'où l'on sort seul, tandis que les troupes adverses sont englouties dans les flots. Cette eau qui devient principe de vie pour ceux qui y cherchent refuge et occasion de mort pour leurs poursuivants. Le récit nous enseigne donc qu'après être passés à travers l'eau, ceux qui en sortent ne doivent rien traîner derrière eux de l'armée ennemie. Si, en effet, l'ennemi remonte avec eux, ils demeurent dans l'esclavage, même au sortir de l'eau, puisqu'ils ont fait remonter avec eux le tyran, au lieu de l'enfoncer dans l'abîme. Dévoilons maintenant le sens de ces événements, cachés sous le symbole. Tous ceux qui, dans le baptême, traversent l'eau mystique, doivent faire mourir dans les eaux tous les bataillons du mal, tels que la convoitise, la concupiscence, l'avidité à piller, les sentiments de vanité et d'arrogance, les élans de violence, la colère, le ressentiment, l'envie et la haine. Toutes les passions de ce genre accompagnent presque spontanément notre nature. Elles suscitent dans notre cœur de mauvais mouvements et produisent les actes qui en découlent. Dans le mystère de la Pâque, il est aussi prescrit de manger du pain azim avec la victime pascale, cette victime dont le sang préserve de la mort ceux qui l'utilisent. Le pain azim, c'est du pain auquel n'est pas mélangé le ferment d'un vieux levain. Par cette prescription, la loi nous donne à entendre qu'aucun reste de perversité ne doit se mêler à la vie nouvelle, mais qu'il faut donner à cette vie un commencement vraiment neuf, en brisant l'engrenage ininterrompu du mal par la conversion au bien. Ainsi faut-il engloutir dans le baptême sauveur, comme dans un abîme, tous les Égyptiens, c'est-à-dire toutes les formes du péché, pour en émerger seul, ne traînant derrière soi, dans sa conduite, rien d'étranger. Tel est le sens de ce récit qui nous montre dans la même eau l'essor si différent de l'ami et de l'ennemi. Pour l'un, elle est mort, pour l'autre, elle est vie. Par ignorance des commandements de la loi, beaucoup de ceux qui ont reçu le sacrement de baptême mêlent le vieux levain du péché à leur vie nouvelle. Même après le passage de l'eau, ils traînent derrière eux, dans leur manière de vivre, une armée égyptienne toujours bien vivante. En effet, celui qui, avant la grâce du baptême, s'est enrichi par le vol ou l'injustice, celui qui a acquis par faux serment une propriété, qui vit avec une concubine, qui a osé faire quelque action défendue, celui-là, s'il continue à vivre après le baptême dans la jouissance de ce qu'il a mal acquis, pense-t-il être délivré de l'esclavage du péché? Ne voit-il pas qu'il reste courbé sous le joug de ses tyrans? Car c'est un tyran cruel et furieux que la concupiscence. Par les voluptés, comme par des fouets, elle violente l'âme qui lui est asservie. Autre tyran du même genre, l'avarice. Elle ne laisse aucun répit à son esclave. Il aura beau travailler pour obéir aux ordres de son tyran, s'il veut acquérir à la mesure de son désir, il sera entraîné toujours plus loin. Faire le compte de toutes les autres pulsions des vices, c'est énumérer autant de despotes et de tyrans. Le rester asservi, même après avoir traversé l'eau, c'est, à mon avis, comme si l'on n'avait pas touché l'eau du sacrement, puisque son œuvre propre est l'anéantissement des puissances du mal.
Et comme le passage de la mer Rouge, Exode 14, est suivi ensuite, en Exode 15, du cantique de Moïse, du grand chant de victoire, il en est de même dans la veillée pascale. Il y a ce grand chant de l'exultet qui rappelle, qui résume ce chant de victoire de l'Église sur la mort, le péché, les puissances de ténèbres. Voici ce que proclame l'exultet. Voici la nuit où jadis tu as libéré les fils d'Israël, nos pères, de la servitude d'Égypte, et tu les as fait passer sains et saufs à travers la mer Rouge. Voici la nuit où, par la splendeur de la colonne de feu, tu as dissipé les ténèbres du péché. Voici la nuit où tous ceux qui dans l'univers entier croient au Christ sont arrachés à la corruption du monde et aux ténèbres du péché pour être consacrés à l'amour du Père et être unis à la communion des saints.